C'est magnifique ce que Dieu fait. Qu'est-ce qui prend à Étienne ? Une crise de positivisme ? Une envolée lyrique ? Un test de la méthode Coué et de la force de la pensée positive ? Non. Un temps d'écoute des psaumes, et en particulier du verset qui a déjà orienté la première partie de ce culte. Remerciez le Seigneur car il est bon, et son amour dure à toujours. Le psaume 118 est entre le psaume 117, le plus petit des psaumes, et le psaume 119, le plus long. Plus important que cette petite remarque, le psaume 118 est le dernier d'un groupe de psaumes qu'on appelle le Hallel. Vous reconnaissez Alléluia, un groupe de psaumes de louanges qui était chanté en particulier à l'occasion de grandes fêtes juives, la fête des semaines, la fête des tentes, et la plus connue pour nous, la fête de Pâques. Et puis chanté, ai-je relu, tous les matins, à l'occasion de la prière du matin, par ceux qui pratiquent cela de façon la plus complète. Ces psaumes 113 à 118 sont récités, chantés tous les matins. Mais donc, en particulier à Pâques, et en particulier le premier soir de Pâques, en relation avec cette grande fête de la délivrance, de l'esclavage, de la sortie d'Égypte, et ça se fête, la fin de l'esclavage. Et cela peut nous aider à lire quelques versets difficiles de ce psaume que je vais oser lire en entier. Je reconnais que j'ai failli ne pas tout lire, parce qu'il y a des passages moins faciles à lire que d'autres. Mais comme souvent, j'ai pensé qu'il était juste et bon de lire l'ensemble d'un psaume, d'un texte, d'un épisode de l'Évangile pour avoir le contexte. Et en sachant que le peuple dit sa joie parce que Dieu l'a délivré à plusieurs reprises des ennemis, nous comprendrons peut-être un peu mieux ces textes qui parlent avec reconnaissance des ennemis écrasés. Ça reste difficile à lire. Mais l'idée, c'est que Dieu nous délivre des géants. Et dans notre vie, il y a beaucoup d'applications, beaucoup moins guerrières que d'autres. Mais Dieu est celui qui nous délivre et c'est merveilleux. Psaume 118, que je lis maintenant en cherchant la bonne version. Dites merci au Seigneur, car il est bon et son amour est pour toujours. Tribu d'Israël, dites, oui, son amour est pour toujours. Famille d'Aaron, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. Et vous qui respectez le Seigneur, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. Dans mon malheur, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire ? Le Seigneur est de mon côté, il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les humains. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les grands de ce monde. Tous les peuples étrangers m'entouraient. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient de tous côtés. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient comme des abeilles. Ils se sont éteints comme un feu d'épine. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. On m'a poussé, bousculé pour me faire tomber. Mais le Seigneur est venu à mon aide. Le Seigneur est ma force. Je chante pour lui. C'est lui qui m'a sauvé. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Le Seigneur a fait un exploit. Il nous a donné la victoire. Le Seigneur a fait un exploit. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. pour raconter les actions du Seigneur. Oui, le Seigneur m'a bien corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. Je vais entrer pour dire merci au Seigneur. Voici la porte du Seigneur, qu'ils entrent, ceux qui obéissent à Dieu. Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu et tu m'as sauvé. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, donne la victoire. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous donnons la bénédiction du Seigneur depuis son temple. Le Seigneur est Dieu. Qu'il nous éclaire de sa lumière avec des branches à la main. Formez le cortège jusqu'aux endroits sacrés de l'autel. Tu es mon Dieu, je te dis merci. Mon Dieu, je reconnais ta grandeur. Remerciez le Seigneur car il est bon et son amour est pour toujours. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous propose de concentrer notre réflexion de ce psaume sur quatre aspects que nous découvrons par la lecture de ce psaume. Tout d'abord, l'expression « son amour dure à toujours ». Ensuite, nous remarquerons la place des épreuves dans ce psaume. Et puis la promesse de la victoire. Et enfin, la réalisation fondamentale de tout cela en Jésus-Christ. Tout d'abord, son amour dure à toujours. Et certains ont eu un bon réflexe tout à l'heure, à la quatrième fois, verset 3, ils ont répété, donc verset 4, ils ont dit avec moi, car son amour dure à toujours. Et c'était un des psaumes qui était très probablement lu avec répétition de tout le peuple. Et le peuple répétait la deuxième partie de la phrase, car son amour dure à toujours. Et dans le psaume que je viens de lire, il y a deux choses qui font que cette phrase est mise à l'honneur. Elle est tout au début et tout à la fin. Célébrez Dieu, car il est bon, car son amour dure à toujours. C'est le premier verset, verset 1, et le verset 29. Et c'est une des façons dont les poètes hébraïques mettait en évidence une pensée importante. Sans être des fans de structures littéraires, on peut quand même remarquer cela. En français, on utilise les rimes pour nous aider à repérer une idée forte, pour nous aider à mémoriser. Ça ne marche pas toujours, mais ça peut nous aider à mémoriser un texte, un poème. En hébreu, on parle d'une structure en chiasme, si vous préférez « sandwich ». Chiasme, ça fait plus littéraire. On commence par une idée, on en met une autre, éventuellement encore une autre, puis on revient à celle d'avant et on revient à la première. Et ça donne du poids à ce avec quoi on a commencé, que l'on répète tout à la fin. Remerciez le Seigneur car il est bon et son amour durera toujours. Une autre façon de mettre la pensée en évidence dans ce psaume, et ça c'est plus habituel un peu dans toutes les cultures, c'est de répéter. Verset 1 à 4, « Car son amour durera toujours. Car son amour durera toujours. Car son amour durera toujours. » Et enfin, « Car son amour durera toujours. » Quatre fois. Dans le symbolisme hébraïque, quatre évoquent en général quelque chose qui déborde. Chez nous, on dirait 36 chandelles. Chez eux, c'était 4. On retrouve souvent dans les prophètes cette expression à cause de 3 crimes et même de 4. Dans le domaine négatif, 4 évoque un trop-plein de choses qui représentent la goutte d'eau qui fait que le vase déborde et la colère arrive. Mais dans le domaine positif, comme ici, ça déborde aussi. C'est trop beau. 4 évoque quelque chose qui est extrêmement répété, extrêmement vrai. Son amour dure à toujours. Mis en évidence dans le contexte historique que ce psaume évoque, par la sortie d'Égypte et beaucoup d'autres libérations, ses ennemis qui ont été écrasés, ces fameux versets qui sont difficiles à lire, mais qui positivement disent que l'amour de Dieu a permis au peuple d'être délivré. Toutes ces libérations sont dues à son amour. Et aussi, bien sûr, son amour dure à toujours. Cela va être tout particulièrement manifesté en celui que vous avez probablement reconnu par l'une ou l'autre expression, la pierre angulaire rejetée. Son amour dure à toujours et ce sera tout particulièrement vrai en Jésus-Christ. Nous y viendrons dans quelques minutes. Deuxième point, les tempêtes peuvent être rudes. Ce psaume, comme toute la Bible, est très honnête. Et nous parle de choses extrêmement difficiles. C'est merveilleux la fin de l'esclavage, la sortie d'Égypte. Oui, mais ça veut dire qu'il y a eu l'esclavage. Et que les 4 siècles en Égypte représentent une période extrêmement douloureuse. De mépris, de travaux rudes et d'esclavage. Et puis, après la sortie d'Égypte, il y a eu les 40 années dans le désert. Bien sûr qu'il y a eu des miracles qui peuvent nous faire envie, mais c'était néanmoins le désert, et c'était douloureux, difficile. Et puis après le désert, il y a eu les géants en Canaan. Et puis après, il y a eu les voisins, les puissances voisines comme les Philistins. Et plus tard, il y aura les Assyriens, les Babyloniens, les Perses. Eh bien, dis donc, on n'est jamais tout à fait sorti d'affaire. Les guerres, les déserts, les difficultés, les injustices, l'esclavage, les douleurs font partie de l'expérience humaine. Et pour nous, tout simplement, si je peux dire, les épreuves, la vie quotidienne, sans Égyptiens ni Babyloniens pour nous, mais les conflits à l'échelle humaine ne sont pas beaux non plus. Je ne parle pas ici des guerres mondiales, mais des conflits dans une famille, au travail, dans le voisinage, dans une équipe d'amis, dans une église, ça existe. Les injustices, la maladie, les luttes intérieures, nos ennemis très cachés, mais très réels. Nous sommes avec ce psaume, comme avec beaucoup de textes bibliques, devant le réalisme de la Bible et l'honnêteté très précieuse de la parole de Dieu. Ce serait terrible que la Bible ne soit pas honnête. Et c'est merveilleux que nous trouvions dans un psaume de louange l'honnêteté qui dit que les malheurs existent. Sinon, nous ne pourrions que très mal nous y associer. Ce serait un psaume d'un autre monde, d'une autre planète. Et nous aurions du mal à nous associer à la louange à laquelle nous pouvons nous associer. Puisque ceux qui nous enseignent ce que nous lisons ont vécu eux aussi des choses extrêmement difficiles. Troisièmement, la victoire est promise. Au milieu de toutes ces difficultés, Dieu reste et devient quelquefois de façon particulièrement marquante celui qui nous accompagne, celui qui nous aide, celui qui est toujours là, celui qui donne la victoire, quelquefois en direct, quelquefois promise et attendue. Verset 13, « L'Éternel m'a secouru, victoire expérimentée. » Verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, victoire espérée, aperçue. » Verset 22, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, je m'arrête. » L'épreuve existe, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et le Seigneur a connu beaucoup d'épreuves. Va devenir la pierre principale, celle de l'angle. Donc la victoire est promise, et tout particulièrement en Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, sa bonté dure toujours. Les épreuves existent, elles sont nombreuses, elles se succèdent, elles sont douloureuses. Mais la victoire est promise et le Seigneur est toujours à nos côtés. Quatrième point, tout cela est particulièrement vrai en Jésus-Christ. Ce psaume a été écrit environ il y a 3000 ans, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais les lecteurs du Nouveau Testament ont reconnu quelques lignes qui nous permettent de savoir que ce psaume parle en particulier de Jésus-Christ, même si le nom n'y est pas. Verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Ce n'est pas la ligne la plus explicite, mais c'est la première dans l'ordre du psaume que je relève. « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Jésus-Christ est mort, mais les lettres du Nouveau Testament qui commentent sa mort et sa résurrection nous font comprendre qu'il ne pouvait pas rester mort et qu'il est celui qui peut dire « je vivrai et pour toujours », indice de la résurrection. Le texte le plus facile à reconnaître pour la plupart d'entre nous, que j'ai déjà lu, verset 22, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. » Je reconnais que je n'aurais pas reconnu Jésus-Christ dans cette ligne si ce texte n'était pas cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Je ne pense pas que j'aurais reconnu tout seul Jésus-Christ simplement avec une image. Mais c'est tellement dit de Jésus-Christ que du coup c'est évident. Et une fois que c'est évident, on le comprend bien. Oui, il a été rejeté, beaucoup plus que chacun d'entre nous ici. Il a été homme de souffrance, habitué à la souffrance, injustement traité, tellement malmené pendant sa vie, tellement d'opposition. Et celui qui a guéri un nombre incalculable de personnes, celui qui a aimé, qui a souri, qui a eu compassion d'un nombre incalculable de personnes, a entendu à ses oreilles « Crucifie-le !» Quelle horreur ! La pierre rejetée. Et il n'a pas simplement entendu la foule dire « Crucifie-le, crucifie-le !» Il est monté jusqu'à Golgotha. Il a porté la croix, une partie du chemin. Il était tellement malmené, abîmé, qu'il a dû être remplacé pour porter la croix. Pierre rejetée, il est devenu la pierre principale de tout l'édifice. Et puis au verset 27, il est question de branchages, de rameaux qui honorent celui qui arrive au nom du Seigneur. C'est le jour des rameaux. Bien sûr, je ne l'aurais pas reconnu tout seul. Mais le Nouveau Testament nous aide à clairement reconnaître que l'honneur accordé à celui qui vient sur un ânon, le petit d'une ânesse, annoncé par Zacharie, allait être manifesté entre autres par ses rameaux le long du chemin à l'entrée de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'allait dire le peuple? Ce qui est dit au verset 25 de notre psaume 118, « Éternel, accorde le salut. Éternel, sauve-nous. » En d'autres, dit dans leur langue, « Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et puis ce fameux verset, verset 24, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Versets 24 et 25. 24. C'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chantons et dansons de joie. Alors c'est quoi cette journée? C'est chaque jour, oui, Pour chaque journée, nous pouvons dire merci à Dieu parce que c'est une journée que le Seigneur a faite et il nous accompagne. Mais ce psaume nous fait comprendre qu'il y a quand même un jour particulier dans toute l'histoire de l'humanité qui est annoncé là. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est l'Éternel qui a fait cela. C'est un miracle à nos yeux. Quel est le miracle qui fait, tu l'as, je n'ai pas eu le temps de poser la question, que celui qui a été condamné, crucifié, injustement traité, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli au tombeau, est néanmoins, finalement, le grand victorieux. Quel est ce jour ? La résurrection, que nous fêtons tous les dimanches, que nous fêtons à Pâques, que nous pouvons fêter tous les jours. Mais le jour que le Seigneur a fait, annoncé au verset 24, c'est clairement la résurrection. Nous pouvons nous réjouir tous les jours parce que le Seigneur est avec nous, parce que chaque journée est une journée que le Seigneur a faite, parce que chaque journée est une journée que le Seigneur nous offre. Mais nous pouvons tout particulièrement le louer en pensant à ce jour, il y a 2000 ans, de la résurrection. Oui, vraiment, son amour n'a pas de fin. Autre traduction du verset clé, verset 1, verset 29, son amour durera toujours, son amour est pour toujours. Autre traduction, son amour n'a pas de fin. Méditez cela dans les heures qui viennent. Son amour est pour toujours. Son amour n'a pas de fin. Et cela peut nous faire penser encore à Jésus-Christ, qui a mis le comble à son amour. Vous vous souvenez ? C'est écrit quelques heures avant sa mort, Jean chapitre 13. Jésus a mis le comble à son amour. Lui qui a tant aimé a mis le comble à son amour. Qu'est-ce qu'il a fait dans Jean 13 ? Il a lavé les pieds de ses disciples. Mais plus que cela, il est en route vers la croix, bien sûr. Jésus a mis le comble à son amour parce qu'il n'a pas simplement fait du bien et fait du bien et fait du bien tout au long de sa vie, mais il a mis le comble à son amour en allant jusqu'au bout. Oui, son amour n'a pas de fin. Il est allé jusqu'à la croix. Jean 13, Jésus a manifesté son amour de façon très concrète, avec un esprit de service inégalé et en introduisant sa marche vers la croix. Jean 10, versets 17 et 18, Jésus dit « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte. » Il a été victime d'injustices énormes, mais Jésus dit « Personne ne m'ôte ma vie, je la donne par amour. » Dans Jean 15, Jésus nous dit à ses disciples « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et il l'a fait. Quel amour, quel pardon, quelle patience, quelle grâce, quel cadeau, quelle victoire sur la croix et par la résurrection. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Remerciez le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Prions. Notre Dieu, merci parce que ton amour n'a pas de fin. Nous proclamons ensemble que si nous sommes ici ce matin, c'est parce que ton amour n'a pas de fin. Nous proclamons ensemble que si nous pouvons recevoir le pardon des péchés, de nos péchés, c'est parce que ton amour n'a pas de fin. Et nous proclamons ensemble que si Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a accepté de vivre la condition humaine, qu'il a accepté d'aller jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix, d'être condamné, crucifié, maudit à ma place, c'est parce que l'amour de Dieu n'a pas de fin. Et nous proclamons ensemble que si rien ni personne ne peut nous séparer de son amour, ni la tribulation, ni la faim, ni les épreuves, c'est parce que ton amour, ô Dieu, n'a pas de fin. Oui, nous voulons apprendre et nous encourager les uns les autres à chanter et danser, à dire notre reconnaissance, à vivre dans la joie dans l'émerveillement, parce que ton amour n'a pas de fin. Amen.